Vous écoutez
RMC.
Bienvenue à tous sur RMC, il est 6h.
5-7, le Morning RMC.
L'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
À la une, le sacre de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde.
L'Espagne, vainqueur 1-0 en prolongation contre l'Argentine. Scène de joie toute la nuit chez les Espagnols. L'âme de Lionel Messi côté argentin. Des sifflets aussi pour Donald Trump. On va revivre tout ça dès le début du journal. Un gros incendie depuis hier dans le Var. 10 maisons brûlées au sud de Draguignan. On est sur place. Et la confirmation aussi dans le Tarn. Les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilard.
Et à la fin de cette Coupe du Monde, c'est le plus fort qui a gagné.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et alors, c'est en prolongation à la 106e minute de cette finale que vous avez vécue sur RMC que l'attaquant Ferran Torres a marqué le but du deuxième titre mondial pour l'Espagne, provoquant des scènes de joie toute la nuit en Espagne, bien sûr, mais aussi chez nous en France, ici près de Paris, où les Espagnols suivaient le match en compagnie de notre journaliste Corentin Roland.
Un but de la libération de l'attaquant Ferran Torres au bout de la nuit. Et la centaine de supporters espagnols rassemblés à Saint-Denis peut chanter sa fierté. L'Espagne est championne du monde face à l'Argentine. L'issue a eu raison de la voix de Didier, franco-espagnol, maillot de la Roja sur le dos.
Indescriptible parce que ça a été un match tendu, on a été aux prolongations. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable.
La victoire 1-0 face à l'Albi Céleste s'est dessinée tardivement, mais l'Espagne a aussi battu le Portugal, la Belgique ou la France avec un seul but encaissé dans le tournoi. Elle est aujourd'hui récompensée pour Julien et Laura.
On a produit du beau jeu, je trouve. Les Argentins n'ont pas existé.
On l'a mérité amplement. Franchement, on a dominé tout le match. T'étais obligé que la deuxième étoile elle vienne chez nous. Il n'y avait pas le choix.
Le nouveau symbole, justement, sur toutes les lèvres.
Deux étoiles ! Deux étoiles, monsieur ! Viva España !
Car l'Espagne rejoint la France avec deux Coupes du Monde à son palmarès, mais les supporters ne sont pas rassasiés et rêvent déjà d'une troisième étoile à domicile en 2030.
L'Espagne qui rejoint donc la France et l'Uruguay au palmarès des doubles vainqueurs de la Coupe du Monde. Et l'Argentine, elle, ne réalise pas le doublé dont elle rêvait tant, elle qui a été complètement dominée hier soir lors de la finale. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York pour RMC où se jouait cette finale. Une des images marquantes de la soirée, ce sont d'ailleurs les larmes de Lionel Messi.
Oui, pendant de longues minutes et alors que l'Espagne était en train de soulever la Coupe du Monde juste derrière lui, Lionel Messi est resté figé, larmes aux yeux et visage rougi, debout devant 50 000 Argentins qui avaient pris place dans le virage du stade de New York, des chants à la gloire de l'idole argentine et des applaudissements nourris pour dire merci à l'ensemble de sa carrière. Malgré la défaite, cette image marque l'histoire du football et en quelques minutes, elle fait le tour des médias du monde entier. Inexistant lors de cette finale, l'attaquant de 39 ans pourra quand même se satisfaire de son mondial avec 8 buts inscrits. Lionel Messi n'a pas évoqué publiquement la suite de sa carrière internationale à l'issue du match. L'Argentin qui a offert le mondial 2022 à son pays pourrait avoir un dernier hommage à la maison lors d'une prochaine trêve internationale. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme aux 8 ballons d'or a joué ce dimanche 19 juillet 2026 son dernier match de Coupe du Monde.
Nicolas Pelletier en direct des États-Unis ce matin pour RMC. C'est le milieu de terrain de l'Espagne, Rodri, qui a été désigné meilleur joueur du tournoi. Et comme Lionel Messi n'a pas marqué hier soir, eh bien c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition, meilleur buteur même de l'histoire des Coupes du Monde. Cette finale tient qui était coupée par un concert de 27 minutes à la mi-temps, en présence notamment de Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber, et en présence aussi de Donald Trump qui a été sifflé par le public pour son unique match du mondial.
Tiens, ce matin on va faire le bilan de cette Coupe du Monde. Ça y est, elle a touché à sa fin. Alors déjà de cette finale, c'était un petit peu choisir son poison en tant que Français. Choisir entre une victoire de l'Espagne, ceux qui nous ont éliminés en demi-finale, ou choisir entre une victoire de l'Argentine, qui sont nos grands rivaux. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat d'hier? Et puis qu'avez-vous pensé au global de cette Coupe du Monde qu'on annonçait grandiloquente? Vous nous le dites au 32-16 et sur le WhatsApp au 06-12-424-424. Il est 6h04 sur RMC et 600 pompiers sont mobilisés dans le Var pour tenter d'éteindre un violent incendie.
Un feu qui a pris dans la région de Draguignan, à Tarado précisément, il s'est propagé aux arcs. Il a franchi franchi l'autoroute, 200 hectares parcourus, 10 maisons brûlées, 150 personnes évacuées avec ce feu qui n'était toujours pas fixé dans la soirée, comme nous le raconte Alexandre Thibault pour RMC.
Depuis sa maison, Julie a vu les flammes et le panache de fumée très proche.
En 10 minutes, il fallait évacuer.
Sa priorité, son cheval dans son jardin.
On a par chance un club de l'autre côté de la nationale qui accueille tous les chevaux qui ont besoin d'évacuer. Donc j'ai marché une heure pour aller mettre le cheval en sécurité.
Elle et son compagnon ont trouvé refuge chez des amis. Son compagnon qui redoute que sa maison soit détruite.
Moi je suis architecte, ma société est à domicile. Potentiellement, je perds le bien familial et toute la structure entrepreneuriale. Surtout, c'est que c'est une de mes plus belles réalisations en tant qu'architecte.
Alerté par un ami, Pierre-Marie tente de se rendre dans la commune, mais sur le chemin, il se retrouve pris dans les flammes.
Et pour moi, ils ont pris un coup. Mon bras, il a brûlé. C'est moi qui ai fait prendre feu.
Légèrement blessé, il arrive sur place et découvre des maisons ravagées.
Oh, il n'y a plus rien ici.
Les toits sont calcinés, les jardins brûlés, les vitres explosées.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il n'y a plus rien. C'est un tas de cendres. Il y a des animaux qu'on n'a pas pu sauver. C'est les maisons de vos amis, c'est tout ce que vous construisez qui se m'a brûlé. Ça fait très mal au cœur.
Il a hébergé cette nuit plusieurs sinistrés qui ont dû évacuer.
Et ce feu qui a provoqué des perturbations sur la ligne de train entre Marseille et Nice toute la journée d'hier, deux ont été annulés, d'autres ont dû rebrousser chemin. Avec parmi tous les voyageurs touchés, le journaliste bien connu de la chaîne Bein Sport, Thomas Ferraud-Vilchez, qui était évacué en pleine voie près de Toulon.
Au début, on n'a eu aucune information. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, surtout. Il y avait des chaleurs suffocantes, donc il a commencé à avoir des malaises. Pour certains, il y avait plus de chances qu'il y avait la clim dans certaines voitures et tout le monde se réunissait. On commençait à parler et puis on était tous assez solidaires. On nous a invités à débarquer du train après 4 heures d'attente dans la chaleur étouffante. On a marché 2 kilomètres sur les ballasts avec des valises à se piétiner, à se marcher dessus, à trébucher entre les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes. Enfin, les gens sont un peu paniqués, ils essayent de s'organiser. Moi, je vous avoue que je sais même pas comment je vais rentrer. J'habite à Saint-Raphaël. Je sais même pas comment je vais rentrer chez moi, quoi.
Et les pompiers luttent aussi contre le feu en Haute-Corse et en Loire-Atlantique où un incendie a touché hier une zone résidentielle et détruit 3 maisons à Trignac, près de Saint-Nazaire.
Et vous le savez, RMC est une grande famille. On prend de vos nouvelles ce matin si vous avez été impacté par ces feux et par ces incendies. Comment vous vous êtes réveillé? Quel décor autour de vous ce matin? Vous nous le dites au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Il est 6h07 sur RMC et une confirmation ce matin. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubilard.
Retrouvés dans un champ où Cédric Jubilard disait avoir enterré le corps il y a presque 6 ans. Alors Constance Bostoen, les ossements ont été analysés durant le week-end et le parquet général de Toulouse a confirmé dans la journée qu'il s'agissait bien donc des ossements de Delphine Jubilard.
Cette confirmation était attendue par les proches de Delphine Jubilard, comme Manon, qui espère désormais rendre hommage à sa cousine éloignée.
Un peu plus de soulagement, parce que là, on est sûr à 100%, où il y aura sûrement une sépulture qui pourrait être enfin faite.
Si Cédric Jubilard a reconnu sa responsabilité dans la mort de sa femme, l'endroit où les ossements ont été retrouvés rajoute encore de l'atrocité dans cette affaire, selon maître Pauline Rongier, qui défend la meilleure amie de la victime.
Il est décidé comme ça de s'en débarrasser dans du fumier. C'est aussi là une nouvelle douleur avec laquelle ils doivent composer.
Les causes de la mort de Delphine Jubilard restent pour l'heure inconnues, mais maître Batic, qui défend l'oncle et la tante de l'infirmière, espère que la famille obtiendra ses explications en septembre, lors du procès en appel, et que l'audience ne sera pas repoussée, comme l'espère la défense.
Ça voudrait dire que ce serait encore Cédric Jubilard qui dicterait l'agenda. Nous souhaitons que le procès se tienne au mois de septembre.
En première instance, Cédric Jubilard avait nié toute responsabilité dans la mort de sa compagne. Il avait été condamné à 30 ans de prison avant de faire appel.
C'est la polémique depuis ce week-end à Grenoble. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, réagit et condamne, je le cite, avec la plus grande fermeté, l'interruption d'un concert par des militants pro-palestiniens et de la France insoumise pour dénoncer la présence, la position de la DJ Barbara Butch, de confession juive, qui avait signé il y a quelques mois une tribune soutenant la très contestée proposition de loi Yadan visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Concert donc perturbé, c'était samedi, condamnation de la ville de Grenoble et du président de la LICRA, Mario Stasi.
Je trouve ça scandaleux et je trouve ça gravissime que des artistes juifs ou supposés comme tels se voient l'objet d'un blocus militant ou de censure sous prétexte d'une religion supposée et donc d'un soutien supposé à une politique dont on dit qu'elle est génocidaire. C'est une atteinte terrible à la liberté d'expression. Cette censure qu'on veut imposer aux artistes, je trouve ça inadmissible, mais indéfendable.
Et vous restez bien sur RMC dans Apolline Matin à 8h10. Nous recevrons Alain Buron. Il est élu municipal à la France Insoumise de Grenoble et c'est lui l'organisateur de cette manifestation contre cette DJ Barbara Butch. Il est 6h09 sur RMC et c'était une journée pleine de rebondissements sur le Tour de France.
Oui, qui arrivait dans les Alpes au plateau de Solaison. C'est le Belge Remco Evenepoel qui a gagné quasiment une minute devant le Français Paul Sexas, qui n'a pas pu suivre le trio de tête dans la dernière montée. Mais Romain Asselin, l'étape a surtout été marquée par l'abandon du Danois Jonas Vingegaard qui a fait énormément réagir depuis hier après-midi.
Oui, le Tour du Danois a brutalement basculé à la sortie d'un rond-point piégeux, environ 20 km de l'arrivée. Marc Riff, directeur sportif de l'équipe Visma Lease Bike.
Il y avait une moto de devant le peloton et le pilote a un peu paniqué au moment de freiner. Il y a donc eu ce freinage brusque devant le groupe. C'est alors que Jonas a chuté, entraînant d'autres coureurs avec lui.
Depuis cet abandon, chacun se renvoie la balle. Le peloton arrivait trop vite dans la courbe, selon les organisateurs du Tour. Tadej Pogacar, lui, s'interroge sur le contrôle antidopage subi en pleine nuit par les deux premiers du général.
Lui, il a eu à 2h du matin. Je me suis demandé si ça avait pu jouer un rôle. Quand une nuit de sommeil est complètement perturbée, on est peut-être un peu moins lucide dans une descente. Et en un instant, tout votre tour peut basculer. Je ne dis pas que c'est la cause de sa chute, mais c'est peut-être un élément qui a aussi pu entrer en ligne de compte.
Remco Evenepoel, vainqueur hier au plateau de Solaison, nouveau dauphin de Pogacar, est d'accord avec le maillot jaune.
C'est un peu inhumain d'aller réveiller les coureurs à 2h du matin, 5h du matin. J'ai dit à Tadej, son équipe devait faire la même chose avec les contrôleurs, d'aller les réveiller à 2-3 heures la nuit. J'espère que c'est pas moi le malchanceux pour la nuit qui arrive maintenant.
Évacué dans une ambulance, Jonas Vingegaard sera opéré dans les prochains jours.
Bon, et aujourd'hui, c'est repos sur le Tour de France avant de repartir demain déviant les bains aussi.
Bah, c'était le journal de Quentin Vinet. Merci Quentin. Prochain journal à 6h30 sur RMC. Mais d'ici là, on va partir au 32-16 pour retrouver Baudouin. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Baudouin qui nous appelle donc du Loir-et-Cher. Vous avez regardé cette finale du Mondial ou pas hier soir?
Eh ben non, je ne l'ai pas regardé pour la simple et bonne raison qu'en bon franchouillard, j'ai été extrêmement déçu qu'on ne soit pas en finale. Je suis quelque part en fait tout simplement jaloux du jeu espagnol. Voilà, ça fait deux fois qu'ils nous passent dessus. Et je supporte pas les Argentins, donc j'ai écouté le match.
Vous avez supporté personne hier soir?
Ah non, personne. Puis je suis encore plus déçu de ce qui se passe en équipe de France. Du coup, bah voilà, j'étais aigri. J'ai écouté la finale à votre antenne, mais ça s'est arrêté là.
Bah non, mais on comprend, c'est vrai que c'est difficile et ça fait pourtant maintenant plusieurs jours, de nombreux jours, hein, que cette demi-finale de la France est passée, mais c'est vrai que on sent qu'il y a une déception particulière, peut-être plus que sur certaines autres éliminations de l'équipe de France, non, Baudouin?
Oui, bah c'est exactement ça, parce qu'on s'aperçoit que certes, on a gagné contre des petites équipes, mais on a bien gagné, alors que d'autres supposées grosses équipes ont eu du mal face à des petites équipes également, donc on s'est permis de rêver. C'est vrai qu'on a vu des buts incroyables, on s'est dit waouh, punaise, mais c'est vrai qu'on est costaud. Et puis en fait, face à la première opposition digne de ce nom, à savoir l'Espagne, bah en fait, on n'a rien fait du tout. Et puis là où je suis encore plus déçu, en fait, c'est que bon, perdre, ça fait partie du jeu, mais c'est la manière dont on a perdu, c'est le comportement de certains joueurs. Et puis j'ai écouté l'after tout à l'heure. Moi, de flinguer Deschamps à bout portant comme ça, on a le droit de pas l'apprécier, mais à un moment donné, il y a un homme derrière. Faut respecter quand même le bonhomme.
C'est vrai que sa sortie, voilà. Mais c'est vrai aussi, Baudouin, que cette sortie de Didier Deschamps, elle a aussi été saluée par tout le monde du football et aussi la France entière. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, Baudouin. Bon, un peu déçu, mais on fera mieux la prochaine fois. Hein, l'Euro bientôt, on sera toujours là et on continuera de s'emballer pour cette équipe de France. Je n'en doute pas. Merci de nous avoir appelé. Vous faites comme Baudouin, vous composez le 32-16 ce matin. Vous venez discuter avec nous, pourquoi pas du Mondial. Tiens, vous aussi justement. À suivre dans le Morning RMC, la solution. Conso, Charlène, de quoi parle-t-on ce matin?
Vous partez en vacances avec vos proches, on va parler du porte-monnaie et surtout comment éviter les disputes autour du budget.
Il y aura beaucoup à dire. Avant cela, il y aura le choix de la rédaction. La France s'apprête à interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Vote prévu aujourd'hui, ce serait une première en Europe. Alors, les psychologues sont prêts à applaudir. Et vous, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 6h16.
RMC, Le choix de la rédaction.
Et c'est aujourd'hui et demain que les députés vont voter l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
À la proposition de loi qui vise à instaurer une majorité numérique passe en commission mixte paritaire aujourd'hui, avant le vote dans l'hémicycle demain. Elle avait été déposée en novembre dernier. Et si elle est votée, la France pourrait être le premier pays d'Europe à interdire TikTok, Snapchat, Instagram aux moins de 15 ans, puisque la loi pourrait être mise en place dès la rentrée de septembre 2026. Et il était temps, Bérangère Bocquillon.
Oui, parce que c'est désormais prouvé. Les réseaux sociaux sont mauvais pour la santé physique et psychique des adolescents. Et TikTok en particulier a un algorithme qui expose les jeunes à des contenus qui peuvent être violents, misogynes, homophobes, le terreau idéal pour du harcèlement ou de la désinformation. Sans compter que les adolescents y passent de plus en plus de temps. C'est ce qu'ils ont confié à Antonin Audion.
TikTok, 3 heures aujourd'hui.
Snapchat par semaine, c'est 28 heures. TikTok, c'est 14 heures.
Je pense que ma mère, elle serait pas contente. Je pense pas qu'elle est au courant que je fais 8 heures par jour. Elle regarde souvent mon téléphone, mais je cache et mon père, il regarde pas.
Moi, j'ai Insta, Snap et TikTok. Souvent, on est un peu hypnotisé par ça et on n'arrive plus à s'arrêter et on se rend pas compte du temps qui passe. T'as un peu la flemme de tout faire après.
Le jeune, il était au sol, il était en train de se faire taper. Je l'ai vu plusieurs fois parce qu'on scroll, après, il y a une autre vidéo qui parle de la même chose.
Ah, moi, je suis sur TikTok, j'ai l'impression de perdre mon temps tout le temps. Pourtant, je reste, je continue à scroller. Souvent, avant de dormir et du coup, on est fatigué.
Ouais, ils dorment moins et ça se ressent sur leur santé mentale jusqu'à avoir des conséquences assez terribles quelquefois.
Oui, Martine est la maman de Lilou qui s'est suicidée le 23 avril 2023.
Elle avait 14 ans, ça faisait un mois qu'elle avait 14 ans.
Martine lui a offert un smartphone l'été de son entrée en 6e pour qu'elle puisse rester en contact avec ses amis. Elle autorise l'application TikTok l'année suivante.
Évidemment, je l'avais mise en garde contre les dangers de certains réseaux, mais je pensais plutôt aux prédateurs sexuels, au harcèlement, de ne pas envoyer de photos. Et je vois dans la voiture qu'elle regarde des vidéos où je vois des gens qui sont en dépression et qui en parlent, et il y a des filtres qui rendent ça glamour et il y a des petites musiques qui vont bien et je vois qu'elle enchaîne des vidéos comme ça.
Comment se scarifier? Quand tu seras morte, tu seras libérée. Toutes ces vidéos ont été vues par Lilou. Martine a donc porté plainte avec 15 autres familles de victimes pour abus de faiblesse contre TikTok.
Quand j'ai commencé un petit peu à reprendre pied, on va dire, je me suis dit, c'est peut-être pas les réseaux qui l'ont mis en dépression. On n'est pas sûr. Par contre, s'il n'y avait pas eu TikTok, on aurait eu plus de chances de pouvoir la sauver. Et en fait, ça a été avéré par l'enquête et par les vidéos qu'on a retrouvées, quoi.
Ouais, Bérangère, et c'est pour ça qu'il y a donc urgence à voter cette loi.
Oui, c'est ce qu'affirme la pédiatre Sylvie Diozica, membre du collectif sur exposition écran. Elle reçoit des ados de 11 ans ou parfois moins qui dorment 3 heures par nuit, des jeunes filles obsédées par la minceur à cause de vidéos sur les réseaux sociaux et les parents qu'elle voit n'ont pas toujours conscience du danger. Pour elle, il faut envoyer un signal fort à tous les parents d'adolescents.
Les messages sont brouillés. Un jour on dit « Ah, c'est dangereux », puis un jour on dit « Ah, ben non, c'est pas si mal ». Ça permet d'échanger avec ses ados, puis il faut vivre avec notre temps, et puis maintenant le monde est numérique. Non, le produit est dangereux. Il est fait pour être addictif. C'est comme pour le tabac, c'est interdit à tel âge. L'alcool, c'est interdit à tel âge. Il faut que l'État donne un message très fort. C'est absolument indispensable.
La proposition de loi prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Le choix de la rédaction signé ce matin, Bérangère Bocquillon. Merci Bérangère. Et puis on vous attend au 32-16. Est-ce que cette loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans est la bonne solution selon vous? On a entendu des 8 heures, des 10 heures par jour sur les réseaux sociaux pour de jeunes adolescents exposés à des contenus violents. Comment vous gérez ça, vous, chez vous? Ça nous intéresse. Vous envoyez vos messages aussi sur le WhatsApp au 0612 424 424. Il est 6h20. Avant de retrouver la solution conso de Charlène, je vous rappelle les trois grands titres de l'actualité ce matin. L'Espagne, sacrée championne du monde de foot. Victoire 1-0 après prolongation contre l'Argentine. Un but du remplaçant Ferran Torres qui brise le rêve des Argentins et de Lionel Messi, la légende de la Biceleste qui jouait son dernier match en Coupe du Monde. Des centaines de pompiers toujours mobilisés dans le Var et en Corse sur le front des incendies, le plus virulent à Tarado, dans l'arrière-pays du golfe de Saint-Tropez. Déjà 200 hectares brûlés depuis hier. Des habitants, un temps évacués, ont pu rentrer chez eux dans la soirée. Et puis 9e jour de frappes américaines en Iran consécutives. Donald Trump dit bombarder le pays, je cite, très durement et pour honorer la mémoire des Américains tués. Conséquence directe, le cours du baril de pétrole est à son plus haut niveau depuis le mois dernier. Il est 6h20 sur RMC.
RMC, la solution conso.
Et tous les jours, des astuces conso avec Charlène Villemer. Vous partez peut-être en vacances avec des proches. Vous y êtes même peut-être déjà. Charlène, vous nous donnez des astuces pour éviter les tensions autour du budget.
Et oui, et les problèmes commencent parfois dès l'arrivée. Votre cousin veut aller au resto, alors que vous, vous préférez faire des courses et cuisiner maison. L'argent, c'est l'un des principaux sujets de discorde, Victor. Vous êtes d'ailleurs 69% à dépenser trop en vacances par pression sociale pour suivre les amis. Ce n'est presque jamais une question de mauvaise volonté, mais souvent une question de non-dit, le fameux tabou autour de l'argent.
Alors, d'abord, pour éviter les prises de tête, on anticipe.
Oui, le transport, la location, on recense les principaux postes de dépenses à partager et ça nous donne déjà une idée du budget. Ensuite, on pose des questions sans tabou. Qui veut aller au restaurant? Combien de fois? Pareil pour les activités. Distinguer les dépenses communes des plaisirs individuels. Il ne faut pas hésiter à dire, moi j'ai prévu tel budget ou je préfère aller au restaurant plutôt que de faire des activités. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes priorités. Dernier conseil aussi. J'ai interrogé Antoine Mazière. Il est responsable du blog Radin Malin, à la tête de ce blog. On fait preuve d'empathie aussi au restaurant. On évite le moitié-moitié si certains ont un budget serré. On propose plutôt à chacun paye sa part.
Et alors, il existe aussi des applications pour nous rendre service?
Les cagnottes en ligne, par exemple, Litchi, le pot commun. Tous les voyageurs peuvent mettre de l'argent qui va servir aux vacances. Vous pouvez aussi utiliser des applications comme Tricount, Splitwise ou encore Split. Chacun saisit ses dépenses et l'application calcule en temps réel ce que chacun doit. C'est très pratique, mais ça nécessite aussi d'avancer l'argent encore une fois. Donc, on évite de toujours faire payer la même personne.
S'il vous plaît.
On peut désigner un trésorier par jour pour varier. Les bons comptes font toujours les bons amis, même en vacances, Victor.
Merci, Charlène Villemer, Solution Conso. À retrouver quand vous le souhaitez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Et puis, vous nous dites au 3216 et sur le WhatsApp RMC. Je suis sûr que tout le monde a une petite anecdote de vacances et de budget partagé. Allez, dans un instant, on va rire avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis, je vous attends évidemment au 3216. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Bon réveil à tous, si vous nous rejoignez, il est 6h24 sur RMC. Il a pris un peu de vacances, mais il nous a laissé la crème de ses blagues. C'est le meilleur d'Arnaud Demanche.
Les amis, j'ai une super nouvelle pour vous. Attention, vous allez être contents. Car les salles de sport Basic Fit vont ouvrir la nuit. Vous allez pouvoir faire votre muscu avant de venir à la matinale.
C'est Apolline, tellement à l'américaine.
1h du mat, ça
bien
va
sûr,
être génial.
Bien sûr.
Apo, elle va faire son développé couché, des fentes bulgares avec des kettlebells, boxer, des punching balls en disant « Alors Villepin, tu veux pas répondre ?» Ils viennent d'où tes sous? Et Apo, elle verra aussi débarquer Alain Bauer dans le Basic Fit, qui sera en micro-short fluo. Oh, quelle coïncidence, Apolline. Vous ici, vous savez que je viens de sortir mon nouveau livre. Ça s'appelle « C'est la loose dans le détroit d'Ormuz ». Et c'est l'histoire d'un bel aventurier moustache. Je sais, Alain, je sais. Appelez ma programmatrice. Elle a bloqué mon numéro. Et toute l'équipe de BFM Business serait là aussi. Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon.
T'as vu Edwige? Je suis sur cette machine depuis une heure. Je tiens bien le coup, hein.
Oh, Choubinou, comme tu es fort! C'est la machine à confiserie.
Ah oui.
Rejoins-moi sous la douche. On va voir combien de kilos tu peux soulever au développé couché.
Oh, non!
À propos de salle de sport, avez-vous vu cette polémique géniale après les déclarations d'une journaliste du Figaro, Anne de Guigné, invitée du club Figaro ID? Elle a déclaré ceci.
Les mêmes salariés s'infligent des efforts mais colossaux. Et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Une nostalgie industrielle.
J'avoue que j'avais vu. Je l'ai dit, en fait, c'est une nostalgie de l'usine.
C'est une nostalgie de l'usine. C'est pour ça qu'on va à la salle
de sport. Ça cultive d'ailleurs cette nostalgie.
Oui, on est nostalgique de l'usine. Et c'est vrai que c'est puissant cette nostalgie. Tous ces gens sur les rameurs, hein, cette nostalgie des galères romaines, le bon vieux temps, l'envie de perdre du poids. Mais on était mieux du temps des famines.
Oui.
On avait un rat crevé à Noël, mais on était heureux. Il n'y avait pas de problème de surpoids.
Hier, Arnaud, le MEDEF a donc reçu à déjeuner le président du RN, Jordan Bardella, pour échanger sur des sujets économiques.
Oui, alors le patron du MEDEF a accueilli Jordan. Bonjour, monsieur Bardella. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du monde des affaires? Des affaires au RN, on en a plein. On a l'affaire des parlementaires européens, l'affaire des kits de campagne. Non, mais des affaires du business. Vous faites un peu du business? Oui. Avec la Russie, par exemple.
Voilà.
Non. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les TPE? Eh bien, les TPE, grand 2, les TPE, des fois, on met sa carte et ça marche pas. Donc, mais c'est bien embêtant. Non, mais c'est pas ça les TPE. Ah. Moi, ma copine, c'est une princesse.
Ah oui.
Bah, on est pas sorti du sable.
C'est pas gagné.
Pas du tout.
Pas gagné. Et puis Arnaud, c'est toujours la crise dans le détroit d'Ormuz.
Ah oui. Aïe aïe aïe.
Ah,
pop 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 pop. Quelle histoire. Eh ouais. Ouais. Bah, il va falloir tenir jusqu'à juin avec le sujet. Hein. Alors, aux dernières nouvelles. Les dernières nouvelles.
Oui.
Dernières nouvelles.
Allons-y, les dernières nouvelles.
A menacé de détruire les ponts en Iran si les pourparlers de paix échouent. J'espère que Macron va pas s'inspirer de lui, qu'il va pas faire « Mais voilà, ça c'est bien. Vous aussi les Gaulois, faudrait vous faire sauter vos ponts là, votre connerie de 1er mai, allez, ça dégage. L'année prochaine, c'est dehors. Et le pont du 8 mai, et hop, à l'usine, ça vous rappellera la salle de sport. Et le pont de l'Ascension, vous en avez combien des trucs? Regarde, au moins le pont de Ligonnès, lui, il a disparu, celui-là. »
Arnaud Demange, le meilleur d'Arnaud Demange qu'on retrouvera à 8h20 dans Apolline Matin, évidemment. Dans un instant, la météo et le journal. Et juste après, notre série de l'été qu'on va inaugurer, RMC dans vos villes. C'est votre radio préférée, dans votre coin préféré. À la rencontre des nouveaux maires fraîchement élus, dont certains détonnent, choquent, font le buzz. C'est justement la spécialité du nouvel élu de Carcassonne, surnommé le Donald Trump occitan. C'est pas pour lui déplaire, mais ça exaspère certains habitants, vous l'entendrez. Mais d'abord donc à 6h29, la météo, Charlène Villemer, et il fait encore très chaud dans le sud.
Oui, avec 6 départements qui sont encore en vigilance orange canicule, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var et puis la Corse. On attend jusqu'à 38 degrés à Marseille cet après-midi, 36 du côté de Perpignan et Montpellier. Pas de canicule dans le sud-ouest, mais il fait aussi très très chaud, 35 degrés attendus à Toulouse cet après-midi, 36 à Montauban, 33 du côté de Bordeaux. On a un peu de vent aussi sur le pourtour méditerranéen qui va souffler jusqu'à 40 km/h ce Mistral. Demain, les températures, elles vont commencer à baisser progressivement, notamment dans le sud, mais on sera toujours en vigilance orange canicule pour l'instant. Le temps, lui, il sera le même toute la semaine. Grand soleil et de la chaleur.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
À l'heure de retrouver Clément Gouitz pour le journal. Bonjour Clément.
Bonjour Victor, bonjour à tous. Ferran Torres offre le mondial à l'Espagne. Victoire 1-0 cette nuit après prolongation contre l'Argentine et pas de doublé consécutif pour Messi et ses partenaires. Des centaines de pompiers toujours mobilisés pour lutter contre un incendie dans le Var. Près de 200 hectares brûlés depuis hier près de Draguignan. Des habitants évacués et des maisons ravagées par les flammes. Arroser son jardin, remplir sa piscine, laver sa voiture. Dans une grande partie de la France, ces gestes sont désormais interdits, conséquence de la sécheresse exceptionnelle. Jamais autant de départements n'avaient été placés au niveau de crise depuis au moins 2013.
L'Espagne, donc, sur le toit du monde.
Yamal et ses partenaires ont fait le doublé Euro, Coupe du Monde. Victoire cette nuit en finale après prolongation 1-0 face à l'Argentine. Le buteur, Ferran Torres. Rodri, lui, a été élu meilleur joueur du tournoi. Les Espagnols décrochent donc leur deuxième étoile. En revanche, Lionel Messi, lui, n'a pas pu retenir ses larmes au moment de la remise de la médaille d'argent. Immense déception pour les Argentins qui échouent à conserver leur titre de champion du monde.
Nous méritions de gagner cette Coupe du Monde, mais l'Espagne a aussi montré ce qu'elle valait. C'était une finale historique et voilà, il faudra se battre pour la Coupe la prochaine fois.
Perdre ou gagner aujourd'hui n'avait pas d'importance parce que l'équipe nationale a montré bien plus qu'une victoire. Aujourd'hui, on relève la tête et aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, on célèbre. Bon sang, aujourd'hui, on célèbre.
Ce qui nous a manqué ici, c'est de la hargne. Rien d'autre n'a manqué. C'est-à-dire que nous avons tout donné jusqu'à la dernière minute. Nous avons toujours joué et les gars ont tout donné. C'est-à-dire que je suis plus que reconnaissant.
Et Nicolas Pelletier, vous êtes en direct ce matin de New York pour RMC. L'autre image de la soirée, c'est Donald Trump hué lors de son entrée sur la pelouse, puis un peu trop présent au moment de remettre le trophée.
Oui, il est un peu plus de 18h30 en heure locale hier à New York lorsque Donald Trump, entouré par des dizaines de membres du Secret Service, entre sur la pelouse du stade de New York, copieusement sifflé, notamment par les fans argentins. Le président américain garde le sourire et va remettre toutes les médailles aux 22 acteurs de la finale. Puis vient le moment tant attendu. Donald Trump s'empare du trophée de la Coupe du Monde aux côtés de Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Le président américain s'avance sur la grande scène au centre du terrain et remet le trophée à Rodri, le capitaine espagnol, qui lui donne une petite tape sur l'épaule et qui l'invite à sortir. Il attend que Trump prenne la place aux côtés des joueurs pour soulever la Coupe du Monde. L'image d'un Donald Trump juste à côté du groupe espagnol se retrouve ainsi à la une de nombreux quotidiens internationaux ce matin. L'image résume un peu cette Coupe du Monde hautement politique. En regagnant Washington dans la nuit, Donald Trump s'est félicité de la parfaite organisation de, je cite, l'un des meilleurs événements de tout genre jamais organisé dans le monde.
Nicolas Pelletier en direct de New York pour RMC. Un lot de consolation pour Kylian Mbappé. L'attaquant des Bleus termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts et meilleur buteur de l'histoire du mondial avec 21 réalisations de vue en Lionel Messi.
Alors, est-ce que ça suffit à votre bonheur? Certainement pas, je pense. Vous nous le dites au 32-16. Tout à l'heure, vous avez entendu Baudouin qui nous disait « Je n'ai même pas regardé cette finale de la Coupe du Monde tellement j'étais encore dégoûté de la défaite de l'équipe de France en demi-finale. » Venez nous dire, vous aussi, puis je lis vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Il est 6h33 sur RMC et le feu dans le Var n'est toujours pas fixé.
Et près de 200 hectares ont été parcourus par les flammes hier entre les Arcs sur Argent et Tarado près de Draguignan. Les dégâts sont importants. 10 maisons brûlées, 150 personnes évacuées, notamment Annie et Stéphane, qui ont pu regagner leur domicile dans la nuit.
En fait, on rentrait de la plage et on voyait de la fumée, mais bon, voilà, sans plus. Le temps de prendre une douche, on est ressorti, c'était noir de fumée, on avait des cendres, et là, on s'est dit, il faut pas rester, quoi, parce qu'il y avait du vent, il faisait plus de 40 degrés, donc on a pris nos affaires, tout ce qu'on pouvait.
On a bien fait, parce que vraiment, c'est allé à une vitesse incroyable. Et effectivement, le jardin a beaucoup, beaucoup pris.
On n'a plus d'électricité, et nous, on a de la chance, parce que notre maison, elle a rien. Les pompiers, ils l'ont sauvé, et merci à eux. Mais en dessous, il y a des maisons qui ont brûlé complètement, quoi. Il y a des gens, ils ont plus rien. Et c'est vrai que dans ce quartier-là, on s'attendait pas à ça.
Autre conséquence de cet incendie, le réseau SNCF entre Marseille et Nice, fortement perturbé, des TGV et TER ont été annulés hier. Autre incendie hier près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, 20 hectares brûlés, 3 maisons ont été ravagées par les flammes et des centaines d'habitants évacués.
Canicule, chaleur et maintenant les restrictions d'eau.
Plus de la moitié des départements français sont au niveau maximal d'alerte sécheresse. Les restrictions se multiplient et certaines communes, Martin Lange, redoutent même des difficultés d'accès à l'eau potable.
Apiculteur à Quincy-le-Vicomte en Côte d'Or, Alexandre est aux premières loges pour observer les dégâts de la sécheresse.
Tout est jaune, on se dirait dans la brousse. J'ai jamais vu ça comme ça.
Les nappes phréatiques sont au plus bas et la source du village ne parvient plus à alimenter le réseau d'eau potable.
Il y a des camions-citernes qui viennent du village voisin, qui remplissent le château d'eau du village.
Une situation loin d'être inédite à 300 km de là, dans le Doubs, la commune de Montjoie-le-Château est aussi approvisionnée par des camions. Le maire, Claude Martelet.
Ce printemps, on avait quand même des nappes archi-pleines, elles débordaient, elles se sont vidées rapidement. Et on n'a plus d'eau, quoi.
C'est la troisième fois que la communauté de communes met en place cette distribution d'eau, un système D qui a un coût.
Il y a deux ans, on est arrivé à 80 000 euros de livraison d'eau. Heureusement pour des petites communes comme nous, qu'on gère plus ce problème-là. Je ne sais pas comment on ferait pour payer les camions d'eau.
Des pénuries qui arrivent très tôt dans l'été, selon Anne Ducharne, hydrologue au CNRS.
Les sécheresses sont pires en août qu'en juillet. Là, on est vraiment très en avance et c'est ça qui est très inquiétant. Il y aura très certainement un nombre croissant de communes qui verront l'eau s'arrêter au robinet.
Elle plaide pour renforcer dès à présent les restrictions d'eau pour les secteurs les plus consommateurs, comme l'agriculture ou l'industrie.
Des camions-citernes pour ravitailler certaines petites villes en eau, vous les avez peut-être vues passer près de chez vous, vous nous le dites au 32-16 et sur le WhatsApp au 06 12 424 424. Venez nous dire aussi quelles restrictions d'eau sont peut-être en vigueur près de chez vous et comment vous vous adaptez. Si finalement c'est un petit peu rentré dans vos habitudes chaque été, est-ce que ça vous exaspère? On attend vos avis.
Et c'est dans ce contexte que les députés se penchent ce soir sur la loi d'urgence agricole, un texte explosif promis par Sébastien Lecornu qui sera soumis au vote donc ce soir dans l'hémicycle. Après des mois d'attente et de négociations, ce projet de loi est soutenu par la FNSEA, dénoncé par les écologistes et une partie du bloc central. Et Grégoire Morelli, le texte qui autorise la réintroduction de deux insecticides interdits cristallise les oppositions.
Oui, le Premier ministre va d'abord évaluer le rapport de force. Est-ce qu'en l'état, le texte peut être voté? La question se pose parce que la réintroduction de l'acétamipride est une mesure qui crispe, reconnaît la ministre de l'écologie Monique Barbu. Elle a mené des consultations tout le week-end. Son entourage explique à RMC que la mesure met en danger le vote de l'ensemble du texte. Ce soir, c'est la position du groupe macroniste de Gabriel Attal qui pourrait faire la bascule. Un député de ce groupe plaide en coulisses pour abandonner la réintroduction de ces pesticides pour sauver le reste du texte. texte. Abandonner les agriculteurs, on ne peut pas se le permettre, prévient le même député. Sébastien Lecornu devra trancher dans la journée. Le gouvernement peut toujours faire évoluer le texte jusqu'à la dernière minute.
Thomas Becker du service politique d'RMC, Sébastien Lecornu, donc convoque en urgence les présidents du groupe du Bloc central à l'Assemblée en début d'après-midi à Matignon. Des frappes américaines sur l'Iran, 9e nuit de suite dans le viseur des centres de commandement et des réseaux de communication. Donald Trump veut venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient, notamment un militaire tué hier par un drone en Irak. Riposte de Téhéran qui vise des pays du Golfe.
RMC, il est 6h38 et la grande migration estivale est lancée.
Des centaines de kilomètres de bouchons hier sur les routes, mais à l'arrivée, la mer, le soleil, les vacances et à Valras Plage dans l'Hérault, les nouveaux arrivants savourent leur premier jour de repos. Charlotte Guerre est allée à leur rencontre.
Direction la plage et les copains pour Lisa, 23 ans, et son père qui ont quitté Caen pour la Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche.
On vient chercher un peu de fraîcheur, un peu de vent frais, ça fait du bien quand il fait aussi chaud.
Et au programme,
ça va être plage, jet ski, apéro.
Et pour son père,
au repos, ouais. Ça fait du bien, ouais, du bien. On a besoin.
Pour Renaud, France et leurs enfants Iser et Zachary qui sont arrivés d'Ardèche ce vendredi, le début des vacances rime surtout avec la gourmandise.
C'est manger une grosse coupe de glace. C'est un peu la tradition, nous, les glaces, c'est notre dada avec les enfants. L'été, c'est les glaces.
La famille a même acheté un mobil-home ici pour profiter de la région.
Là, c'était vraiment l'histoire de se retrouver en famille ici, changer de cadre.
Quant aux enfants, ils ont déjà trouvé leur activité préférée, c'est la baignade.
Profiter de la plage, des activités au camping, la piscine, ils sont tous baignés.
Une chose est sûre, Iser célébrera son anniversaire cette semaine, les pieds dans l'eau.
Un jour de repos sur le Tour de France après une journée de rebondissement à l'abandon de Vingegaard, victime d'une chute clavicule cassée. Evenepoel a remporté l'étape devant Pogacar et s'empare de la deuxième place. Et le Français Paul Sexas perd son maillot blanc au profit d'Isaac Del Toro.
Et les courses RMC, c'est à l'hippodrome de Vichy à 18h30.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 6 Maximilien, son outsider, le 3 Dividend Roll.
Merci Clément Gouitz, prochain journal à 7h sur RMC. Il est 6h39, tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC.
Dans vos villes.
Nous sommes allés voir ces maires élus ou réélus en mars. Quelles sont leurs premières mesures concrètes? Que change l'arrivée d'un nouveau maire? Comment vivent-ils ce rôle de maire et sur quoi reposent leurs engagements?
Et pour le premier épisode de notre série de l'été, direction Carcassonne ce matin, chez le Donald Trump Occitan. C'est le surnom de Christophe Barthès, le nouveau maire Rassemblement National de la ville. Un maire qui détonne par son franc-parler. Ex-député du Rassemblement National, viticulteur de profession, il multiplie les provocations et donc les polémiques. Sonia Gobril vous a accueilli dans son bureau.
Quand je rentre dans le bureau, la première chose qui saute aux yeux, c'est la photo de Christophe Barthès et Marine Le Pen en train de se serrer dans les bras à la place du portrait du président Macron. C'est pourtant une tradition républicaine.
Comprenez que je préfère avoir ma patronne au-dessus de la tête que le président de la République.
Autre mesure symbolique, derrière la fenêtre, suspendu au balcon, le drapeau français, celui de la région Occitanie, et entre les deux, rien.
Le drapeau européen était au milieu et je l'ai retiré.
Christophe Barthès s'est filmé, il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.
Manière de faire un peu de buzz.
Et des buzz, il y en a eu d'autres ces trois derniers mois.
Allez, un peu de fraîcheur.
10 millions de vues pour cette vidéo dans laquelle le maire de Carcassonne, tuyau à la main, arrose des militants syndicaux venus manifester sous ses fenêtres. Il les traite de siphonnés.
Ils peuvent taper des pieds, ils ne me feront pas faiblir.
En conflit avec les syndicats, Christophe Barthès veut les expulser de la Bourse du Travail, un local municipal. Et là encore, la décision a été mise en scène. Sophie Trochet, secrétaire départementale de la CGT de l'Aude, raconte.
Il est sorti, nous a jeté des cartons avec du scotch en disant « Commencez à préparer vos cartons ». Donc voilà tous les cartons. Et on en fera de jolies pancartes revendicatives pour la prochaine fois qu'on ira manifester, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un respect de l'état de droit.
Et des libertés syndicales, parce que pour elle, le maire RN de Carcassonne envoie un signal très inquiétant.
La seule interdiction qu'il y a eu, c'était pendant le régime de Vichy sous Pétain. C'est la seule fois où les syndicats ont été interdits et où les locaux ont été repris.
Mais ce n'est pas ce qui fera reculer Christophe Barthès.
Il ne manifeste pas contre l'extrême droite, comme d'habitude, non. Il manifeste contre le maire et contre la politique du maire, alors que ce même maire leur met des locaux gratuits à disposition. Ça peut pas durer.
Il a aussi stoppé l'achat de pubs et les partenariats culturels avec le groupe de presse local La Dépêche du Midi. Pas assez neutre, selon lui.
Ils écrivent ce qu'ils veulent. Je m'attaque pas à la liberté de la presse. Je pars du principe qu'on ne mord pas la main de celui qui vous nourrit.
Argument utilisé aussi pour couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme qui a attaqué son arrêté anti-mendicité. Toutes ces mesures et le style très cash du maire RN divisent les Carcassonnais. Certains applaudissent, d'autres comme Christian sont exaspérés.
Pour moi, ça reste le Front National. Ce n'est pas le RN, c'est le Front National. Ces gens-là sont un danger. Il n'y a qu'à le regarder pour comprendre ce que je vous dis.
À un an de la présidentielle, Christophe Barthès a conscience qu'il peut être gênant pour son parti.
Peut-être que j'y mets pas les formes que certains voudraient que j'y mette. Il y a certains de mes collègues, de mes amis qui passent sur les plateaux télé. Il va falloir qu'ils expliquent certaines mesures que je mets en place. Jusqu'à présent, Paris ne m'a rien dit. Hein, ne m'a pas appelé pour me dire ralenti. Voilà. J'ai eu Jordan Bardella il n'y a pas longtemps. Il m'a parlé d'autre chose, mais pas de ça. Ils ont compris qu'il fallait pas me le dire parce que ça ne marcherait pas.
Quant à son surnom de Trump occitan, il répond « Je l'accepte avec grand plaisir ».
RMC dans vos villes, c'est votre série de l'été, reportage signé Sonia Gobry ce matin et ça vous fait réagir évidemment, vous composez le 32-16 et on en discute ensemble. Justement, le 32-16, nous y partons pour retrouver Yannick du côté de Perpignan. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, avec vous, on va parler de cette interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. On en parlait dans le journal et dans le choix de la rédaction. Je crois que vous y êtes plutôt opposé, non ?
Bah oui, parce que pour moi, c'est déresponsabiliser les parents. Mmh. C'est déresponsabiliser. Moi, je sais que moi, je vois maintenant, elle a 19 ans, mais j'ai une fille qui a utilisé son portable depuis l'âge de 11 ans. Mmh. Et je veux dire, elle est jamais allée dans des trucs qu'il fallait pas, puisque nous on était.
Mais vous étiez particulièrement derrière elle, vous regardiez quand même.
Bien sûr. Mais bien sûr, quand il fallait qu'elle arrête de regarder quelque chose, elle arrêtait et voilà. Et après, je veux dire, on l'a éduquée de façon à ce qu'elle nous écoute, c'est tout.
Mais Yannick, il y a aussi certains ados, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y a rien de plus difficile qu'un ado qui ne veut pas vous montrer les choses. Il y a certains ados qui gardent ça pour eux et qui le font dans leur coin. C'est peut-être pour eux plutôt que cette possible interdiction interviendra.
Je suis désolé, ça s'appelle l'éducation. Moi, si mes enfants ne veulent pas m'écouter, eh ben, ils l'ont pas, c'est tout. S'ils veulent pas, si par exemple au niveau des portables, tu veux pas que je te suive sur Insta, sur Snap, sur TikTok, eh ben t'as pas de portable. Voilà, point. T'as pas de portable, c'est tout. C'est
pour
fini.
Vous,
c'est moi
pour
qui
vous,
commande.
C'est vraiment de la responsabilité des parents et la loi n'a pas à s'immiscer là-dedans.
Voilà, moi, de toute façon, dès qu'on n'arrive pas à légiférer en France, on interdit. Oui, dès qu'on n'arrive pas, on interdit. Voilà.
Et vous plaideriez plutôt pour une plus grande souplesse et quelque part une plus grande responsabilisation, alors de l'adolescent certes, mais surtout des parents, on l'a bien entendu. Merci beaucoup Yannick de nous avoir appelé ce matin au 32-16. Je vois que vous êtes maçon, ça part au boulot ou vous êtes en vacances ?
J'y suis déjà.
Ah, d'accord. Eh bien, bon courage Yannick, on est avec vous évidemment, on vous accompagne sur le chantier et vous faites comme Yannick, vous composez le 32-16 et on échange ensemble, vous savez, c'est comme ça le morning, on est avec vous. À suivre, justement, dans le Morning RMC, cette porte ouverte, ce possible chamboulement dans le monde de la chasse. Une ville est parvenue à interdire la chasse sur ses terrains communaux grâce à l'interprétation d'une loi, grâce à la justice. Le maire de Lerme, près de Toulouse, Frédéric Patient, est l'invité du morning dans un instant. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 6h48.
Les chasseurs chassés, du moins éloignés. Pour la première fois, une ville obtient en justice que la chasse soit interdite sur les hectares de terrain qui lui appartiennent.
La nouveauté, c'est donc qu'elle s'est servie d'une loi qui prévoit une opposition de conscience. Cette ville, c'est Lerme, tout près de Toulouse, et vous en êtes le maire Frédéric Patient. Bonjour.
Oui, bonjour.
On va entrer dans le détail de la procédure dans un instant, mais d'abord, cette procédure, elle a duré longtemps, elle n'a pas été simple, votre ville a persévéré. Si vous avez déployé autant d'efforts, c'est parce que la situation était plus tenable. Pourquoi fallait interdire la chasse sur ces espaces-là ?
Alors, cela correspond à la volonté du conseil municipal, en fait, de sécuriser un bois communal qui est très fréquenté par les habitants de la commune. Un bois communal d'une surface de un peu plus de 20 hectares.
Et important de le préciser, ça ne concerne que le domaine public.
Alors, ça concerne évidemment que le domaine public. Pour domaine public, entre guillemets, c'est le domaine privé communal. Et cette demande fait suite à de nombreuses tentatives prises par arrêté, par mon prédécesseur, puis par moi.
Oui, justement, c'est important de rentrer dans cet aspect-là et d'expliquer. Vous avez donc, plutôt que des arrêtés, qui ont été les tentatives précédentes, utilisé une loi qui habituellement s'applique plutôt à des particuliers, c'est ça ?
Alors, c'est un article de loi du Code de l'environnement donc, qui a été décidé et voté par les législateurs qui permet à tout propriétaire de terrain de les retirer d'une association communale de chasse agréée sur un motif dit de conscience ou au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Sachant qu'il existe également un autre motif de retrait qui est le motif cynégétique et qui permet à un propriétaire de se réserver pour lui-même le droit de chasse. A contrario, le motif d'opposition de conscience implique que le propriétaire du terrain ne pratiquera pas la chasse sur ce terrain, s'interdit lui-même de chasser et néanmoins s'engage quand même à organiser la régulation des espèces nuisibles si par cas il y en avait.
Oui, voilà. Donc la commune pourrait faire appel à des chasseurs sur ces terrains-là si jamais il y a des animaux nuisibles qui venaient à se reproduire particulièrement en nombre dans ce domaine-là. Si je comprends bien, cette démarche-là, elle est plus longue, mais pour le coup, elle est définitive par rapport à des arrêtés.
Alors, l'arrêté n'est pas légal parce qu'un maire ne peut pas prendre un arrêté en matière de chasse. Il n'est pas compétent pour le faire. C'est ce que m'avait rappelé le tribunal administratif lorsque j'avais perdu face à la justice. La portée de ce retrait. Alors déjà, il faut savoir qu'elle entre en vigueur uniquement au renouvellement de l'ACA, c'est-à-dire tous les 5 ans. Donc il y a une date anniversaire pour nous qui est le 11 janvier 2028. Donc cette mesure entrera en vigueur uniquement le 11 janvier 2028. Ah. Et elle est valable pour une durée de 5 ans, sachant que la commune aurait éventuellement la possibilité de réintégrer ces terrains dans l'ACA ultérieurement, si elle le souhaitait.
À l'avenir, évidemment. Frédéric Patience, c'est une première. Les chasseurs craignent que d'autres communes s'en inspirent de cette procédure et que petit à petit, le domaine chassable se réduise. Ça vous fait quoi d'avoir ouvert cette porte-là?
Alors, ça a été un long combat que je mène depuis le mandat précédent. Au début, donc, mes convictions, c'était qu'il fallait sanctuariser, entre guillemets, un bois communal de 20 hectares. Je rappelle que l'ACA de l'Herme a une surface de 1704 hectares. Donc, en procédant à ce retrait de l'ensemble des terrains communaux, j'ai souscrit 50 hectares à la chasse, dont 29 qui sont réellement chassables, hein, parce que les autres sont trop proches des habitations. Donc c'est un long combat que j'ai mené et au cours de ce combat, je me suis rendu compte que je me heurtais à un lobby de la chasse extrêmement puissant. Et donc c'est au fur et à mesure de l'adversité que j'ai rencontré que je me suis dit oui, il faut vraiment qu'on y aille pour, comme vous le disiez, ouvrir la porte, permettre à d'autres communes de...
Justement, d'autres maires vous ont appelé depuis ?
Oui, j'ai le maire d'une commune voisine qui m'a appelé il y a une semaine, puisqu'il avait été interpellé par des administrés qui lui proposaient de réitérer sur sa commune la même procédure que celle entamée sur la commune de l'Herme.
Et donc, potentiellement, c'est une mesure qui pourrait être appelée à... Eh bien, à s'étendre dans d'autres communes qui suivraient votre exemple. Merci beaucoup, Frédéric Patience, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le maire de l'Herme, près de Toulouse, première ville donc à obtenir l'interdiction de la chasse sur son domaine communal, une partie de son domaine communal grâce à cette loi dite d'opposition de conscience. Merci d'avoir été en direct dans le Morning RMC. Il est 6h54, bientôt l'heure d'Apolline Matin. Bonjour Sébastien Krebs.
Salut Victor, salut Charlène.
Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. La nuit a été courte peut-être, ouais, parce que vous avez regardé cette finale.
J'ai pas eu le cœur.
Oui.
J'ai regardé quand même. Jusqu'au bout des prolongations. l'Espagne championne du monde. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé, vous qui nous écoutez, de cette finale? On vous attend au 32-16. Est-ce que finalement cette deuxième étoile espagnole est méritée? Est-ce que ce sont les plus forts de ce mondial qui ont gagné le trophée à la fin? On en parle tous ensemble. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC. On suit évidemment toute l'actualité et notamment ce qui se passe sur le front des incendies. Le point dans un instant. À tout de suite.
5-7. Le Morning RMC.